en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le jeudi 22 octobre 2009, on apprenait avec tristesse le décès de l'historien Pierre Chaunu, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, où il siégeait depuis le 11 janvier 1982 dans la section Histoire et géographie. Le lundi suivant, 26 octobre, le président Jean-Claude Casanova ouvrait la séance de l'Académie en évoquant la mémoire de Pierre Chaunu et en faisant respecter par ses confrères une minute de silence. Canal Academy vous propose d'écouter le président Casanova.
Mes chers confrères, une bien triste nouvelle nous afflige depuis vendredi. Nous avons appris le décès de notre très aimé confrère Pierre Chaunu. Il s'est éteint le 22 octobre au soir à son domicile à Rouen, après la longue maladie que vous savez et qui nous peinait autant que nous manquait sa chaude éloquence à nos séances du lundi. Ses obsèques seront célébrées demain, dans l'intimité, au temple de Courseul, sur mer, dans le Calvados. Vous me permettrez de vous lire la lettre que Madame Huguette Chaunu, son épouse, nous a adressée au secrétaire perpétuel et à moi-même. Pierre Chaunu, mon époux, est décédé hier soir à 23h en son domicile après une douloureuse maladie qu'il a supportée avec courage et lucidité. Mes deux filles, médecins et moi-même ne l'avons pas quitté. Hospitalisé après une chute lundi 12 octobre, nous avons demandé son hospitalisation à domicile avec l'assentiment des médecins. Beaucoup de démarches nous attendent aujourd'hui, mais je voulais dès ce matin vous informer de notre immense peine afin que vous puissiez en faire part à tous ses confrères et amis auxquels il était profondément attaché. L'Académie restait pour lui-même, dans sa maladie, un des centres de sa vie. Il en était président lors d'une première attaque bénigne et grâce au regretté Édouard Bonnefous, il avait été soigné et suivi avec beaucoup d'attention à l'hôpital du Val-de-Grâce. Mes enfants et moi-même vous en sommes très reconnaissants. Veuillez agréer, Monsieur le Président, etc., messieurs les académiciens, l'expression de mes sentiments les plus dévoués et reconnaissants. En votre nom, à tous, nous dirons à Madame Chaunu et à ses enfants nos condoléances, notre peine, toute l'admiration et toute l'affection que nous portions à Pierre Chaunu. Nous leur dirons aussi que son esprit ne nous quittera pas. Ce ne sera pas une simple formule de convenance. Pierre Chaunu était un immense historien et un historien puissant. Dès qu'on invoque sa personne, l'immensité de l'œuvre, l'immensité des questions traitées, la puissance des analyses et des interprétations, nous disent quel grand homme il était. Immense et puissant. Il était né le 17 août 1923 dans la Meuse, près de Verdun, et il a souvent erré dans le champ de bataille. Il était un de nos plus anciens confrères, puisqu'il appartenait à notre académie depuis 1982. Il y a donc siégé 28 ans. D'ailleurs, il en était devenu le doyen d'élection. Il avait, dans notre académie, succédé à Maurice Beaumont. Il occupait le fauteuil numéro 5, qu'ont occupé avant lui des hommes qu'il inspirait et qu'il admirait, son coreligionnaire François Guizot, 42 ans, dans cette académie, Numa Fustel de Coulanges, Albert Sorel, Paul Vidal de Lablache, Émile Bourgeois, Lucien Fèvre, enfin, et Maurice de Beaumont, Lucien Fèvre, dont il était très proche, puisqu'il était l'élève de Brodel et que Brodel était lui-même l'élève de Fèvre. Agrégé d'histoire, son immense besoin de comprendre et de chercher pour comprendre a fait qu'il s'est très vite consacré plus à la recherche qu'à l'enseignement. Il est parti très jeune pour Séville. Permettez-moi de le citer pour que nous entendions à nouveau sa voix. Voici comment il décrit ce voyage initiatique et ses premières recherches en même temps que ses premières découvertes. Je suis parti pour Séville en 1947. À cette époque, nous sommes hantés par l'idée qu'il y a une corrélation entre la crise de 1929 et la guerre que nous venons de connaître. Je suis fasciné par les théories de Simian, et avec l'aide de Brodel, après être tombé sur la page 43 du livre de Hamilton, Hamilton était un historien de Harvard, je me dis, il y a un certain nombre de grandes cassures dans le temps, de grandes flexions. Il y en a une qu'on comprend très mal, c'est celle qui est au début du XVIIe siècle. Si on arrive à comprendre ces flexions antérieures, peut-être aura-t-on plus de prise sur celles qui risquent de se produire. Peut-on faire quelque chose pour éviter que cela recommence ? Hamilton, Brodel et moi, le petit-fils en quelque sorte, nous partions sur l'hypothèse suivante, qui va se révéler fausse. Il y aurait eu, au début du XVIIe siècle, une sorte de phénomène de compensation entre le Pacifique et l'Atlantique. Nous voulions vérifier l'idée, formulée dès 1637, que si le système commercial s'était effondré dans l'Atlantique, c'est qu'il avait été capté par le Pacifique, les Chinois tirant vers eux l'argent de l'Amérique et provoquant ainsi la panne dans l'Atlantique. Je vais donc en Espagne pour essayer d'établir les séries statistiques. Je patauge pendant plusieurs mois, puis je comprends comment sont faites ces comptabilités en chiffres romains. Et j'établis une courbe qui contredit pleinement l'hypothèse. La corrélation entre le Pacifique et l'Atlantique est une corrélation positive et non négative. Les causes sont ailleurs, et je tombe sur cette évidence. La chute de la population des Indiens fut beaucoup plus importante que les historiens ne le prétendent. Les ordres de grandeur sont ceux que donnait Las Casas, et c'est cette énorme chute qui a mis cette économie en panne. Elle a perdu ses dominés, et finalement, j'aboutis au système que j'ai construit dans les années 1955-1960. Système qui figure dans sa thèse monumentale, en 12 volumes, Séville et l'Atlantique. Mes chers confrères, vous connaissez sa carrière. Elle se partage entre Caen et Paris. Caen, où il prend sa première chaire, Paris, où il s'installe à la Sorbonne. Elle se partage aussi entre la Sorbonne et le CNRS. Vous connaissez son œuvre immense, profonde, féconde. Dans ce flot continu et bouillonnant qui émane de Pierre Chaunu, foisonnent les hypothèses, les analyses, les remarques, les visions auxquelles on s'accroche, parfois, pour respirer et pour méditer, avant qu'il ne nous submerge à nouveau, puis nous entraîne plus loin encore. Il nous faudra donc lire et relire son Europe classique, son Europe des Lumières, son Charles Quint, ses livres sur la Réforme, son Paris religieux au XVIIIe siècle, livre décisif sur le rôle du jansénisme au XVIIIe siècle. Vous connaissez tous ses livres, ses multiples articles. Vous savez son rôle dans les instances universitaires et scientifiques. Vous savez aussi les combats qu'il a menés. Le mot « combat » convient, car quand il pensait qu'une situation était grave et qu'une issue était incertaine, il n'hésitait pas à ferrailler. Vous savez également, mes chers confrères, son apport à la méthode et à la connaissance historique. Il a développé l'histoire quantitative, l'histoire sérielle, l'histoire démographique plus particulièrement. Vous savez d'ailleurs, mes chers confrères, quelle importance il accordait à la démographie, comme historien et comme politique. Il savait quelle était la forme moderne du destin. Le grand protestant qu'il était se sépare d'un autre illustre pasteur, le révérend Malthus, parce qu'il interprétait comme une catastrophe le déclin démographique français, celui d'une nation catholique, la première dans l'histoire, à avoir trompé la nature dès le début du XIXe siècle, plus encore que ne le fit la Rome d'Auguste. Certainement, des livres, des articles lui seront consacrés, des hommages lui seront rendus, des notices qui énumèreront ses œuvres seront prononcées, des tombeaux seront élevés, qui tous diront la grandeur de l'homme et l'importance de l'historien et l'importance de son œuvre. Je dirai simplement, en reprenant une formule d'Auguste Comte, qu'il n'existe pas de grande intelligence sans une grande générosité. Pierre Chaunu fut la démonstration parfaite de cette formule qui lie l'intelligence à la générosité. Il avait la générosité dans son verbe oral, dans son verbe écrit, dans ses intuitions, dans ses sentiments, dans tous les dons qu'il nous a faits comme historien, comme professeur, comme chercheur. Il avait lié à cette générosité une grande intelligence du passé. Il se nommait lui-même fils de la mort, parce qu'il avait perdu sa mère très jeune et que le mystère du temps l'avait hanté depuis l'enfance. Et il a consacré au passé, à la maîtrise de l'histoire, tout son esprit et toute son intelligence. Et s'il aimait étudier le passé, c'était pour maîtriser l'avenir et pour nous aider, et d'une certaine façon, pour aimer ses semblables. Je vous demanderai de respecter une minute de silence en sa mémoire et en signe de notre affliction.
Vous venez d'entendre le président Jean-Claude Casanova lors de la séance de l'Académie des sciences morales et politiques le 26 octobre 2009.